un travail d'orfèvre. Le corps humain est incroyable. Avant la naissance déjà, lors de la conception d'un nouvel être humain, au cours de laquelle un spermatozoïde et une ovule donnent corps à un embryon, qui se développe ensuite, tel un miracle. L'organisme, même malmené par une alimentation déséquilibrée, un stress chronique ou encore des xénobiotiques présents partout, dans l'eau, l'air ou la terre, a pourtant toujours une solution, un plan B quand le A ne fonctionne pas, ou une astuce pour régler un problème, qu'il soit court, à moyen ou à long terme. Évidemment, plus on prend soin de soi, et plus il est harmonieux, réglé comme une horloge, dès lors qu'on lui donne ce dont il a besoin, nutriments, amour, et qu'on lui épargne ce qui tend à l'encrasser, alimentation industrielle, à l'abîmer, excès en tout genre, à le dérégler, surmédicalisation, etc., voire à l'achever, avec tout ce qui précède. Nous avons expliqué ailleurs, dans une série d'articles sur la physiologie digestive, combien l'acte de manger enclenche tout un mécanisme bien huilé à partir du moment où l'on pense à manger, l'appétit venant, jusqu'à la délivrance fécale lorsque le sphincter anal lâche les amarres, en passant par les sens, je vois, sens, goûte ce que je mange, et les différentes étapes de la digestion. Tout est un, mais bel et bien huilé, allumé, pardon. Plus globalement, l'âme, le corps, l'aura, l'esprit, le mental, chacun le ou les nommera à sa convenance, tout est un et cette unité joue à l'unisson. Voilà pourquoi les médecines alternatives, complémentaires ou encore non médicamenteuses, ayant cette vision holistique de l'être humain, ont tant de succès et surtout de réponses pertinentes à apporter. Le découpage qu'en fait la médecine conventionnelle, un foie par-ci, une rate par-là, le cerveau tout en haut, les pieds tout en bas, ne peut que dysfonctionner, en tout cas en préventif, mais aussi bien souvent en curatif. On ne lui enlèvera toutefois pas son utilité en cas d'urgence, notamment. Prenez le système respiratoire. Il ne se réduit pas au seul poumon, mais implique le nez, le larynx, la trachée, la cage thoracique et ses muscles pour inspirer et respirer. Et même le foie, puisque les poumons et le foie sont deux émonctoires liés l'un à l'autre. L'un d'eux dysfonctionne, c'est l'ensemble qui faillira. La naturopathie a toujours bien à l'esprit le lien entre les différents organes filtres, appelés émonctoires ou portes de sortie, dont l'action est d'éliminer les surcharges, autrement dit de vider, avant que ça ne déborde. Les hémorroïdes illustrent très bien cette interaction. Lorsque le foie est surchargé, à cause d'un excès de protéines animales, d'alimentation ultra transformée, de sucre à index glycémique élevé ou bien raffiné, ou encore de colère. Selon la médecine traditionnelle chinoise, il y a un fort risque d'accumulation de sang, puis de congestion, le foie n'étant plus en capacité de filtrer correctement. Or, ce barrage hépatique entraîne bien souvent un bouchon à la sortie, qui se manifeste par des hémorroïdes. La médecine conventionnelle passera de la pommade analgésique, et prescrira des médicaments antithrombotiques ou fluidifiants, tandis qu'une approche holistique conseillera de rééquilibrer son alimentation, d'avoir recours à des plantes décongestionnant du foie et de faire sortir sa colère. Pour faire le lien, nous aussi, entre nos deux exemples, rappelons-nous de Rudolf Steiner et de sa tripartition de l'homme représentée par trois pôles. Il y a d'abord un cercle pour la tête et le cerveau, ou pôle neurosensoriel, puis une croix pour la poitrine et les poumons, matérialisant le pôle rythmique, et enfin un carré pour l'abdomen ou pôle métabolique. Dès lors que le rond, la croix et le carré sont proportionnés et alignés, l'être est en équilibre, donc en pleine santé. Disproportionné et désaligné, c'est la maladie. Mal à dit. Un petit tout dans le grand tout. Le corps humain est donc un tout composé de liquides, d'os, de tissus, d'organes, certains vitaux, d'autres pas, d'hormones qui dirigent, d'enzymes qui exécutent, de neurotransmetteurs qui communiquent, entre autres. Il comprend aussi plusieurs milliards de micro-organismes, à savoir des bactéries, des virus et des champignons et autres levures, qui colonisent chacun de nous et qui d'ailleurs nous gratifient d'une identité microbienne unique, comme le font les empreintes digitales à chacun de nos 10 doigts. Il s'agit du microbiote, vous l'aurez deviné, cet organe à part entière appelé pour leur deuxième cerveau, qui sera peut-être un jour amené à détrôner le premier. En attendant, ces micro-organismes nous accompagnent et nous sont d'une aide inestimable, sous réserve d'être aussi nombreux que variés et en symbiose. Bien nourri, surtout avec des fibres et de bonnes graisses, le microbiote permet un nombre considérable de réactions biochimiques, autrement dit de fonctions, telles qu'une bonne digestion, une bonne santé intestinale, une bonne absorption des nutriments, un bon métabolisme général, une bonne gestion des émotions et surtout une bonne immunité. Entre autres, et sans lui, pas de vie. Si depuis bientôt 2 ans, l'objectif de l'humanité, dixit une poignée d'entre elles, et pas la plus bienveillante qui soit, est d'éradiquer le moindre virus, ils font pourtant partie du tout, et ce, depuis la nuit des temps. Une machine bien huilée. Le corps humain compte des milliards de cellules, avec dans chacune une mini-usine qui bat son plein, pour notre mieux. Visionnez ou revisionnez les épisodes intemporels de « Il était une fois la vie » pour vous en convaincre. Les enfants adorent et ils ont bien raison. On y voit notamment combien des milliers d'informations sont traitées en temps et en heure pour la synthèse, fabrication, la dégradation, transformation ou la catalyse, destruction, puisque, comme le disait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'objectif est de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de l'organisme et de tout système d'ailleurs à maintenir l'équilibre entre son milieu intérieur et ce qui se passe à l'extérieur et celui de ses paramètres tels que la température corporelle, le rythme cardiaque, la pression sanguine, la glycémie, etc. Il s'agit de maintenir une constance tout en s'adaptant, le cas échéant, à des besoins particuliers afin de permettre des conditions de fonctionnement optimales. Pour cela, nous sommes dotés d'un système nerveux à double tête. L'un est central et nous disposons des commandes. L'autre est autonome et régule toutes les fonctions réflexes de l'organisme, cardiaque, respiratoire, digestive, ainsi que les différentes sécrétions. Nous gérons un certain nombre de fonctions, comme boire, aller faire pipi ou au lit, suite à la réception de signaux spécifiques pour le faire. Le stress ou cortisol pour fuir un ours, la faim, la gréline, quand c'est l'heure de passer à table, le petit signal du réflexe recto-anal contracteur quand il est grand temps d'aller déféquer, etc. Notre système nerveux autonome aux deux modes antagonistes, orthosympathique et parasympathique, qui travaillent en synergie, prend en charge un nombre incroyable de tâches dont nous serions littéralement submergés si nous avions à le faire volontairement. Respirer, digérer, sécréter les différentes hormones et enzymes, gérer sphincter et motricité, nettoyer et renouveler, les cellules et les tissus, vasculariser, innerver, faire des réserves, s'en servir ou les détruire, combattre les agents pathogènes et tant d'autres choses encore. Et c'est oublié, dans cette liste non exhaustive, les capacités de l'organisme à s'auto-régénérer, puisque des cellules meurent chaque minute et d'autres prennent la relève, de même pour les globules rouges et bien d'autres constituants. Nous l'avons oublié et nous en remettons ailleurs pour faire ce qu'il sait faire tout seul, sous réserve toutefois de lui en donner les moyens. En somme, les capacités du corps humain, comme celles de tout organisme vivant, d'ailleurs, sont inégalées et d'une coordination orchestrale. Nous aurions envie d'ajouter que c'est là l'invention la plus géniale qui soit. Aussi, aucune technologie, même la plus avancée, ni aucun robot n'égaleront jamais tout être humain. Inutile donc de vouloir le transcender. Il l'est déjà. Et très bien comme ça.